garçon.
Salut Charline.
Oh, qu'est-ce qu'il fait, Alex?
Ah bah, il pleure.
Il m'a tapé la honte.
Mais qu'est-ce qu'il dit là? Oh.
Bah, hier, Jean Becker était l'invité.
Mais il m'a tapé la honte.
Bah oui, ça va, j'ai entendu, merci, mais enfin, je vois pas de quoi tu parles.
Mais si, hier, il y a Alex, il a posé une question sur le film.
Voilà. C'est une époque qui vous plaît, que ce soit Les Enfants du Marais.
Les Enfants du Marais, c'est bien après. Hein,
on est en costume, c'est ça que je veux dire, vous voyez?
Vous allez voir ce que je veux dire.
C'est
pas fait Astérix,
c'est. D'accord, mais ma question c'est, est-ce que si on vous proposait, est-ce que ça vous...
Non mais... Les gens ils clashent.
Oui, bah t'as bien mis la honte.
Oh. Bah si, là c'est ce qu'on appelle mouché. Hein,
non, il est prétentieux, hein, ce bonhomme en plus.
Mais enfin non, il était charmant, Jean Becker.
Oh, tu trouves charmant alors quand tu lui as parlé du fait qu'il retrouvait Cluzet 35 ans après.
On est aussi curieux de voir comment le temps a fait son œuvre, vous comme réalisateur, lui comme acteur.
Bah moi je suis devenu un très grand réalisateur, lui un acteur, ma foi, de second rôle.
Pas de la prétention ça peut-être.
Oui, évidemment, oui.
Bon, après, je me suis pas laissé faire.
Ah bon? Ah
bah je te l'ai mouché, papy Mougeot, là quand il a fallu.
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchel, Sophie Verbeek, qui vient de Charleroi, qui avait près de chez nous. Non, je vais vérifier.
L'accent de Sophie Verbeek.
Oui, c'est comme ça qu'on dit.
C'est pas l'accent, c'est elle qui le dit bien.
Vla.
Attends, je me rappelle de ça. Relance un petit peu la fin du son.
Oui, c'est comme ça qu'on dit.
C'est pas l'accent, c'est elle qui le dit bien.
Monsieur Becker. Vous l'appeliez comment?
J'ai bien compris.
Vous l'appeliez comment sur le tournage?
Sophie.
On dirait plutôt que c'est papy qui a bouché tout le monde là, non?
Il nous a tous tapé la honte.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'émission qui réunit l'ancien monde radiophonique et le nouveau monde podcastable. Voici les trois informations qu'on va sauvegarder dans le cloud. La voiture sans chauffeur a fait un mort aux États-Unis, un piéton. Le sans chauffeur est sain et sauf. Voilà qui douche nos espoirs technologiques. La bagnole a un carburateur à la place du cœur.
Elle est en panne ?
Non, elle n'est pas en panne, elle attend le coucher du soleil, elle adore ça.
La nuit noire est un bien précieux et rare. Sur le littoral français, les éclairages publics perturbent la vie aquatique. C'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse qui nous prive donc de ceci.
C'est quand même pas foutu les étoiles, là.
Il paraît qu'il y en a des mille.
Le plus grand artiste du XXe siècle était un monstre. Et oui, d'après une nouvelle biographie, Pablo Picasso, ce serait un sale con.
C'était un trou de balle, ce type. Un pauvre type.
Dans 50 ans, sa biographie sera brève. Alex Vizorek.
Oui, mais sans doute. Bonjour Charlie Vedonaker. Et moi, je suis quelqu'un de sympathique. Alors
mais
peut-être
oui,
ça explique mes talents de peintre. Autour de la table, à 17h20, celui qui a pleuré en voyant l'hommage de Sylvie Vartan à Johnny Hallyday. Pas tant parce que Johnny nous a quittés, plutôt parce que Sylvie est toujours là. C'est vous, Chewbacca, bonjour.
Ouais, n'importe quoi, c'est bon, mes amis. Bonjour
Alex,
bonjour
tout le monde.
Eh ben de Christophe, mais surtout de son. C'est ça qui nous préoccupe. Ah,
le son quoi?
Le son, ce qu'on entend.
Le son.
Le fait exprès.
C'est réel, d'accord.
Petit jeu de mots.
On ne sait pas qui est l'invité encore. À 17h30.
On connaît son prénom en tout cas.
Un jour, Nicolas Sarkozy a posé la question: qui me rendra mon honneur? Eh bien, je pense qu'il a trouvé celui qui allait le faire aujourd'hui.
C'est moi.
C'est Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Je vais vous parler des malheurs de Nico, effectivement. Je suis allé voir ses anciens électeurs.
On parle toujours de cette présomption d'innocence. Pardon.
Oui, pas facile de dire innocence hein, quand on est Sarkozy. Ça passe pas.
Et enfin, à 17h40, son prochain spectacle s'appellera Potpourri. A priori, il traitera de sa vie sexuelle. C'est le retour de Constance. Bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
De francophonie. Oui.
Très bien.
Et je me tourne vers celui qui participe à l'habillage sonore de cet open space. Donc, vous commencez votre carrière en mettant la tête dans la lessiveuse de votre grand-mère pour écouter la réverbération. C'est décidé, vous serez musicien. Vous sortez votre premier 45 tours à 20 ans, revient Sophie, et quand vous criez Aline pour qu'elle revienne, vous vendez 1 million de disques. Puis arrivent les mots bleus, passez la période showbiz yéyé, vous proposez une musique plus expérimentale. Vous avez publié 18 albums, le dernier c'est Les Vestiges du Chaos en 2016. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Dites-nous qui vous êtes.
Vous voulez mon nom?
Ouais.
Mon vrai nom?
Celui que vous voulez.
Christophe, et mon nom est Davila, quoi.
Ok,
Christophe
très bien.
Est avec...
Il a ses papiers, il est en règle.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Sur France Inter.
Bienvenue Christophe. Bévilacqua, ce magnifique nom qui est un album aussi.
J'ai rajouté Bévilacqua parce que c'est vrai qu'en 1995, comme je m'lasse un peu de l'habitude, Christophe, comment m'ennuyais un petit peu et j'avais proposé à Universal de, pour l'album Bevilacqua, de changer de nom, de m'appeler Bevilacqua et d'oublier Christophe. Voilà. Ah oui. Et donc l'album s'est appelé Bevilacqua, mais ils n'ont pas été d'accord pour que je me dénomme. Je ne sais pas le dénommer, donc, même un peu quand même, parce que mon vrai prénom est Daniel. Donc tout ça est bordel total.
C'est pour ça aussi qu'on vous aime, Christophe.
Daniel Guichard est avec nous, donc, jusqu'à
10h. Christophe, vous allez offrir un concert unique à Vannes, dans le festival Les Émancipés, qui a lieu du 21 au 26 mars à Vannes. Et vous, vous jouerez au Palais des Arts, salle Le Sage. Ce sera le jeudi qui arrive, là, le 22 mars, à 21h. Ce concert unique, Christophe, comment est-ce que vous l'abordez? Parce que vous qui aimez le changement, qui aimez inventer sans cesse, retravailler ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez proposer aux gens qui ont la chance de vous voir à Vannes?
Difficile aujourd'hui de répondre, parce que je sors de la Philharmonie, mm-hmm. Donc c'est tout chaud. Donc quelque chose que j'ai préparé pour la Philharmonie la semaine dernière, là, je ne suis pas quelqu'un qui prépare à l'avance, parce que j'aime beaucoup l'inconnu. Et d'abord, normalement, j'arrive, parce que je voyage qu'en voiture, et j'arrive la nuit en Bretagne. À ce moment-là, quand j'arrive vers l'hôtel, vers 3-4 heures du matin, je me mets devant mon ordinateur, et par rapport au parfum de la nuit, à ce que j'ai ressenti dans l'architecture, dans l'endroit, où vous voyez, les choses me traversent, j'écris des choses, je fais ma playlist, disons. Je me dis, là, dans cet endroit, par rapport à ce festival, je ne vais pas faire ceci, je vais faire cela. Il se trouve que là, je suis quand même pas avec mon groupe, mais je suis seul. Ça tombe bien, parce que j'adore la solitude. Ce que je vais proposer, c'est sûr, quelques morceaux revisités des vestiges du chaos, mais avec mes synthés, piano, guitare, ça va être autour de ça. Et puis, revisiter un petit peu, vous voyez, la nostalgie, des choses, même pas, j'aime pas dire la nostalgie d'ailleurs, j'appelais ça le blues, c'est-à-dire faire une version d'Aline dans ce festival pour moi, et comme au cœur, à tout le temps balader son Check It Baby, comme tous les artistes ont tout le temps revisité, et, dans leurs concerts, réinterpréter leurs chansons, fétiche, quoi, voilà.
Donc on adresse un message au propriétaire de l'hôtel où vous logez, s'il met des huiles essentielles dans votre chambre, ça peut changer tout votre programme, Christophe, c'est ça que je comprends.
Et surtout que comment j'ai les miennes, donc
ah oui, d'accord.
Je vais virer les siennes.
Autour de vous, dans ce festival, il y a d'autres références de la chanson française, Florent Marchais, Jeanne Chéral, Albin de la Simone, qui sont sans doute vos successeurs aussi. Est-ce que vous êtes attentif à ce qui se fait d'autres? Est-ce que vous,
Bien sûr. Je ne suis pas attentif, je suis juste chineur des autres, chineur de la musique des autres. C'est ce qui m'a donné envie de chanter. Non pas de faire du son, parce que le son, c'est venu, comme vous dites, dans la réverbération d'une lessiveuse ou dans le métro. Parce que ce qui m'a donné envie, justement, puisqu'on parle de son, c'est la réverbération, les délais, les choses qui font que je ne suis pas un chanteur qui chante a cappella, parce que je ne peux pas dire que j'aime ma voix spécialement. Ma voix, je m'en sers comme un instrument. Donc, qu'est-ce qu'on disait d'autre?
Non, justement, est-ce que ces chanteurs-là...
Oui, bien sûr.
Ça vous motive quand vous entendez cette jeune génération? Vous vous dites, moi aussi, il faut que je me remette à écrire des
chansons.
Il joue
à la pétanque avec Julien Doré.
Oui,
déjà, c'est vrai. Mais à part la pétanque, musicalement.
Je ne me dis pas, moi aussi, il faut que je m'en remette. Non, je ne m'en remets pas, puisque j'y suis quand même. Disons que c'est quand même... Ma vie, c'est quand même d'être en rapport avec l'évolution de la technologie. Et, effectivement, je vais l'écouter dans toutes les musiques que j'aime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime aussi bien le rap que l'électro.
Et vous passez de votre synthétiseur à votre lavabo, parce que parfois, la lessiveuse, c'est devenu le lavabo dans la salle de bain, où vous dites, tiens, ce son est pas mal.
Oui, je sais comment je mets des micros un peu partout, puisque j'aime le son et que c'est ma passion. C'est pour ça que ça, c'est effectivement ce qu'on ne connaît pas vraiment. Alors, c'est toujours chiant de toujours expliquer... ce qu'on est, parce qu'en fait,
Il vaut mieux l'entendre.
Oui, c'est à travers, je pense, une création, à travers un album, à travers l'évolution, grâce à cette technologie qui, effectivement, est ma palette sonore et que j'aime terriblement, quoi.
Et Djoubaka va y revenir tout à l'heure. Christophe, on comprendra mieux votre travail du son, votre recherche. Et il essaiera de vous faire découvrir des choses, Djoubaka. Christophe, donc, vous serez au Festival Les Émancipés. Vous jouez à Vannes votre concert jeudi 22 au théâtre Anne de Bretagne, petite correction par rapport à ce que j'ai dit à tout à l'heure. Il y aura notamment Malice de Kerangal, Cascadeur, Babix, Pascal Grégory, il y aura Jeanne Chéral, il y aura Vincent de Dienne aussi. Voilà pour ce festival. Christophe est avec nous et on va reparler de lui, de l'art, du son, de la musique. C'est Djoubaka qui a fait la programmation musicale, donc si des recommandations, c'est maintenant.
Ou des plaintes.
And there's no need to ask me, brother, what I've been doing the past the time. Sorry, but the guilt that I can't say. Upon your chest, your arms are folded, with the bottle in your hand.
Djoubaka a choisi de programmer le jour où on reçoit Christophe. C'est
ben, c'est Duncan Jones, and The Indication et c'est Smile. C'est un album qui a été enregistré pour 500 $ dans les caves d'une université dans l'Indiana, qui est une des plus grosses universités où il y a l'histoire de la musique noire américaine. Ouais. Et c'est un gamin vraiment très très pauvre qui arrivait là-bas. Et c'est une chanson sur Smile parce que quand il arrive à l'université, il est tellement pauvre, tout le monde le regarde, il n'a pas les fringues et donc il est obligé de sourire, donc il a une attitude.
Et voilà.
Raconte bien.
Merci, Djoubaka.
Ça fait plaisir d'écouter un peu tous ces concerts où je suis allé tout le temps voir Otis Redding, Sam and Dave, James Bond, j'étais tout le temps là, quoi. Donc,
c'est que des instruments analogiques et enregistrés à l'époque. Ouais. Bah, ça s'entend.
Christophe est avec nous avant de partir à Vannes où il joue le jeudi, ce jeudi d'ailleurs à 21h au théâtre Anne de Bretagne dans le cadre du festival Les Émancipés avec toute une liste de formidables artistes que vous pouvez retrouver sur la playlist parce que c'est toute la playlist France Inter qui sera là, je peux vous le dire en tout cas. Et puis Christophe en tournée aussi, je vais vous donner quelques dates pendant l'émission, notamment à Châteaudun, à l'espace Malraux le lendemain, le 23 mars, et puis à Château-Renard le 13 avril pour en tournée. Et donc Christophe
Djoubaka, que nous avons entendu, Guillaume Meurice, qui est allé parler Sarkozy dans la rue.
Ben oui, ça fait du bien un peu, ça vous avez manqué.
Et Constance, qui parlera francophonie.
Christophe, je sais que vous suivez un peu l'information, on va refaire un point tout de suite.
Oui, je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes.
Le journal de presque 17h17.
Alors, conclusion ?
La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions.
Et on commence par les titres.
Aujourd'hui, nous sommes le 20 mars, c'est la journée mondiale du bonheur.
Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007.
Aux États-Unis, une femme est décédée après avoir été percutée par un véhicule à conduite autonome de Uber.
Oui, c'est confirmé, même la voiture autonome d'Uber n'est pas une solution pour Benoît Magimel, pour qu'il puisse rentrer les soirées festives.
Parce qu'il y aura des brèves.
Oui, les brèves autonomes ne se crachent jamais, madame.
Après le feuilleton judiciaire autour de l'héritage de Johnny, voici donc le feuilleton judiciaire autour de celui de Kadhafi.
Oui, donc Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue.
Qui me rendra mon honneur ? Qui me rendra mon honneur ?
Oui, en même temps, à force, il en reste plus beaucoup. Hein. On va pas se mentir, le casier judiciaire de Sarkozy, c'est l'inverse du code du travail. Plus le temps passe, plus il devient épais.
Mais potentiellement, la garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures, ce qui signifierait alors que Nicolas Sarkozy peut passer une nuit en prison.
Exactement, il va se rendre compte qu'une cellule de prison, c'est beaucoup moins confortable qu'une tente dans le jardin de l'Élysée.
Et sur CNews, Pascal Pro a appelé Nadine Morano.
Nicolas Sarkozy, dans le même laps de temps où il a été président que M. Macron, lui a promulgué 82 lois et Macron 43. Que ça vous plaise ou pas, d'accord? Si vous ne l'avez pas compris, bien je vous le redis. Et je vous souhaite une bonne journée.
Merci Madame Morano. Je vois que vous êtes en pleine soirée. Elle a raccroché.
Voilà, elle a pété un plomb, elle a raccroché. Et apparemment, elle va être aussi mise en examen psychologique dans les prochains jours.
Autre actualité du jour, le journal Le Figaro a publié une tribune sous cet intitulé « Sente intellectuels se mobilisent contre le communautarisme islamique.
Oui, excuse-moi, je vois les signataires, là, je vois Bernard de la Villardière et Elisabeth Lévy.
Ah oui, attendez, je reprends. Oui. Le Figaro a publié une tribune, 98 intellectuels voilà. Et deux agitateurs télévisuels se mobilisent contre le communautarisme
islamique. C'est plus juste. Voilà. International.
Cynthia Nixon, l'ex-actrice de la série Sex and the City, se lance dans la course pour devenir gouverneur de New York.
Et elle a des chances, puisque Sex and the City, c'est exactement le parcours de Gérald Darmanin.
Écologie à présent. On apprend qu'à cause du réchauffement climatique, 143 millions de personnes seront obligées de migrer d'ici 2050. Qu'est-ce qu'il y a ?
Jean-Marie Le Pen fait un AVC.
Ah, pardon.
Ne le dites pas trop fort.
Environnement, toujours, selon le CNRS, un tiers des oiseaux ont disparu des campagnes françaises en l'espace de 15 ans.
Oui, mais dans les villes, en revanche, il y a de plus en plus de pigeons, notamment à l'entrée des Apple Store.
Cinéma, oui. Le studio de Harvey Weinstein a déposé le bilan.
Oui, il risque de finir à poil, mais ça ne devrait pas les déranger. Outre mesure.
Sport, à présent, oui. La construction du futur centre d'entraînement du PSG pourrait être retardé à cause de fouilles archéologiques.
Oui, ce qui serait marrant, c'est qu'on retrouve les ossements d'Atem Ben Arfa en train d'attendre d'être sélectionné pour le prochain match.
Télévision, oui. L'émission culte de Patrick Sabatier Avis de recherche sera bientôt de retour sur C8.
Oui, ils seront spécial Xavier Dupont de Ligonnès pendant un bon bout de temps a priori.
Éducation en Belgique, des historiens ont publié un guide intitulé « Papy était-il un nazi ?» destiné à aider les citoyens belges qui recherchent des informations sur l'éventuelle collaboration d'un aïeul.
Alors, j'ai cherché le livre en France et pas moyen de mettre la main dessus. Alors, soit il n'a pas été distribué, soit il est en rupture de stock déjà.
Allez, de brèves.
Oui, ce titre dans La Voix du Nord, ivre, virgule, il plante un couteau dans le dos de son ami croyant que c'était une pizza.
Ah.
C'est ce qu'il a expliqué au tribunal. Il s'est acharné sur le carton de pizza qui n'arrivait pas à ouvrir, le confondant avec son ami. Il s'est retrouvé avec un couteau dans le dos et il a été condamné.
Ah, oui. La justice fonctionne en France. Alors, une dernière.
Oui, Vaucluse, son train arrive, elle stoppe sa fellation et il finit condamné pour exhibition. C'est pas de bol, hein, pour une fois que le train est plus précoce que l'éjaculation du monsieur.
Par Jupiter, vous écoutez France Inter où il est 17h26 à La Grand Motte, car le 15 juin, Christophe sera en concert à La Grand Motte. Vous êtes avec nous, Christophe, jusqu'à 18h et on va d'abord faire un petit exercice entre nous. C'est-à-dire qu'on va parler d'actu. Dimanche soir, dans l'Arizona, aux États-Unis, un piéton a été renversé par personne. Ah oui, une voiture autonome, sans chauffeur, c'est personne. Et c'est bien là le problème. Le responsable, c'est Uber, qui teste depuis des mois ses voitures autonomes en Arizona, au Canada. Et dimanche soir, c'est le drame.
Petite automobile, fille, tu parais fragile,
vous qu'aimez les sons.
Tout ton drôle de capot.
C'est programmation musicale Guillaume Meurice qui a eu cette brillante idée. C'est du son.
Je ne suis en rien responsable de ce genre de choses.
C'est dommage, vous êtes sectaire.
Christophe, vous qui êtes intéressé par la technologie du son, est-ce que la technologie, vous la regardez aussi au-delà de tout ce qui est instruments de musique et ces voitures autonomes, vous qui avez été un passionné de voitures, vous regardez ça avec un peu de curiosité et vous vous dites, ça devait arriver. La technologie, est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est absurde? Est-ce que c'est dangereux? Vous regardez un petit peu tout ça?
Je passe pas beaucoup de temps près de cash sur la télé, quoi. Mm-hmm. Je regarde plutôt des documentaires sur comment que je choisis, qui me font planer avec des belles couleurs, mm-hmm. des insectes qui sont pris de tout près comme ça, qui s'amusent entre eux, vous voyez. Qui...
Donc, mais là, donc, ouais. Le fait d'avoir une voiture sans chauffeur. Ouais.
C'est vrai que.
Imaginons que la voiture, c'est une coccinelle, peut-être pour s'approcher de votre
c'est
univers.
C'est vrai que moi, la voiture, c'est quelque chose que j'ai abandonné. Enfin, j'étais forcé d'abandonner, puisque ouais. j'ai plus de permis depuis l'an 2000.
À cause du permis à points.
Et je ne ouais. leur passe pas à cause du permis à points, oui.
Bah regardez, vous auriez toujours votre permis avec les voitures sans chauffeur.
Oui. Donc, la voiture sans chauffeur, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui m'excite, parce que ce qui m'excitait, c'était plutôt d'aller avec un prototype sur un circuit et de... Ouais. Et de kiffer, quoi. Donc,
c'était la vitesse qui vous plaisait, Christophe, ou bien le...
La vitesse, ça conjugue beaucoup de choses. Ça conjugue savoir regarder dans un rétroviseur, savoir connaître des zones de freinage, savoir connaître des bretelles. Je pense que c'est être un bon pilote, ouais. De bien conduire sur un circuit. Je pense que les gens, passer des fois dans des auto-écoles de merde, où ça sert à rien, la preuve, on le voit, hein. Même dans, vous voyez, dans la technologie. Ouais.
Mais est-ce que c'est profondément humain ou si oui. toutes ces informations on les donne à un ordinateur, c'est-à-dire qu'on lui dit s'il pleut comme ça, si tu freines là, tu tournes là, est-ce que oui. l'ordinateur peut y arriver?
À mon avis, les robots, les ordinateurs, tout ça, c'est quelque chose de pointu. Moi, je le vois comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui me plaît parce que je me sers des ordinateurs parce qu'ils sont complémentaires à ma création. Mais donc, je sais à un petit niveau de quoi je parle. Après, les gens qui font évoluer comment, dans tous les domaines, que ce soit le social, l'éducation, les enfants, tout est à changer, tout ça, c'est très difficile de parler de choses comme ça qui viennent d'arriver. Moi, je suis pour un mec qui s'endort pas au volant non plus, un mec qui sait s'arrêter avant de s'endormir.
Ici, comme tout est complexe, donc le piéton traversait une bande à quatre voies la nuit, et puis la voiture qui était censée l'éviter ne l'a pas fait. Donc les tests d'Uber sont suspendus, et voilà qui pose toutes ces questions. Enfin, on s'y attendait un petit peu, mais pas si vite. Christophe est avec nous, et restons dans la technologie, le son, le sensible, l'humain avec Chewbacca.
Bah oui. Allons-y. Alors, ce qui est embêtant, voire limitant avec la célébrité, c'est que les gens ne voient que de vous, en fait. Christophe, c'est à vous que je parle, que la partie immergée de l'iceberg. Et donc, on oublie souvent que Christophe n'est pas simplement ou seulement un chanteur. D'ailleurs, je ne l'ai jamais entendu se définir comme ça. C'est un autodidacte, déjà, en musique. Et c'est un chercheur de son. Et surtout, je pense que c'était un curieux. Il me dira non ou oui tout à l'heure. Il fait partie de cette génération, en fait, qui est partie en toupie avec les débuts du rock US, bien sûr, Presley, Cochrane, Gene Vincent, Chuck Berry. Mais il a aussi grandi, sans forcément le savoir, avec les grands expérimentateurs, des enregistreurs de musique concrète, comme Pierre Schaeffer ou Pierre Henry. Et là, il y a une concordance de temps ou d'espace-temps qu'on pourrait retrouver dans un documentaire animalier comme ça, un peu spatial. Quoi, voilà. Et surtout, Christophe, en fait, il a connu les premières machines électroniques, les distordeurs de son. Et dans le paysage musical français, sa façon d'écrire de la musique semble, enfin c'est pour moi que je dis ça, partir plus du son que de la note. La musique, pour lui, ça a l'air d'être un bruit qui pense. Alors quand vous aviez 12 ans, vous le racontiez tout à l'heure, que les 45 tours américains ont débarqué ici en France, vous cherchiez à reproduire un écho en chantant dans la lessiveuse de votre grand-mère pour retrouver en fait cette réverbération qui est très métallique au niveau du son. Au même moment où Christophe fait ça, aux États-Unis, on a un grand guitariste qui s'appelle Link Wray, qui a commencé sa carrière à la fin des années 50, et qui lui aussi cherchait à avoir une distorsion, une résonance, mais différente de celle des autres. Alors lui, il a pris un ballon citerne, il l'a coupé par le milieu, il a pris son ampli de guitare devant, et quand il jouait, en fait, il y avait une réverbération à l'intérieur du ballon citerne. Et donc, il a recréé un son qui était très particulier. Et vous avez eu la chance, à la fin des années 60, de vous coltiner des machines de la famille Moog qui étaient parfois tellement énormes qu'on pouvait pas les emmener sur scène avec les Pink Floyd qui arrivaient à emmener du Moog à l'époque sur scène. Donc on jouait à la maison ou de toute façon dans un espace clos, le studio, et on est solitaire. Et dans la famille des musiciens, des chercheurs, des bidouilleurs, ils choisissent en général un environnement précis, un lieu, et ils ont une singularité avec le temps. le jour, la nuit, ou alors plus de jour, plus de nuit. Alors je sais pas si vous connaissez un artiste français qui s'appelle Molécule, qui est un musicien électro, et pour son dernier album qui s'appelle 22,7 degrés Celsius, et ben lui, il est parti dans un coin paumé du Groenland, deux avions, hélicoptère, 8 heures de chien de traîneau avec 100 kilos de matériel dans le dos. Il s'est installé comme ça dans une cabane où il a installé le studio, il est resté quelques mois, il y avait plus de chiens que d'habitants là où il était, et puis il a enregistré les bruits, le son, de la glace qu'ils font, comment ils marchent, l'effet du soleil sur la terre, les relations aussi avec les animaux, et pendant ces quelques heures il enregistrait, et le soir il allait composer. Et comme lui, j'imagine en fait que vos premières sources d'inspiration, ben, c'est le son, mais c'est aussi la contrainte qu'il procure, c'est-à-dire qu'on peut le ratatiner, le rallonger, le distordre, en faire un peu ce qu'on veut, mais c'est vraiment un quotidien en fait, avec quelque chose qui peut paraître complètement éphémère. Et c'est une liberté aussi qu'on est musicien aujourd'hui de pouvoir faire ça. Mais c'est une liberté qu'on paye souvent par la solitude, et ça c'est un luxe que l'on prend. Mais par contre, on a un peu tendance à laisser de côté les histoires de showbiz. Alors là, vous avez un nouvel appartement depuis pas longtemps, qui est un terrain d'aventure, donc on l'a dit, vous allez sous le lavabo, mais vous poussez des petits cris aussi, il paraît, dans le couloir régulièrement, pour par rapport à l'écho.
Tester la réverbération.
Ouais, ça, c'est les voisins qui nous l'ont dit, ça.
Voilà. Et donc, moi, j'ai choisi qu'on écoute un morceau de 72, en fait, qui, pour moi, fait le lien entre le côté, l'amour du rock 50s qu'a Christophe, et l'arrivée des synthétiseurs qui arrivent un tout petit peu dans ce morceau, mais qui sont déjà très, très, très présents, et très présents dans la composition et dans la rythmique. Ça s'appelle Rock Monsieur.
Une goutte à faire, poker, replonger, money, faites tomber. Mais si vous aimez, monsieur, on a du rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Topu, ravagé, chanson, tube d'acier, voiture, j'ai le dossier. Et stop, je suis planté. Mais si vous aimez, monsieur, voilà du rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Le joint, comme plombier. Rasmotte, en suqué. Téléphone, dérangé. J'coumoune, comme pas vrai. Mais si vous aimez, monsieur, voilà du rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Costume mal coupé. Cheveux mal rasés. Galère comme je t'aime. I am joli garçon. Mais si vous aimez, monsieur, voilà du rock, c'est mieux. 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 Rocks, 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 rocks.
Rock Monsieur, donc.
Ouais.
De classe. Christophe.
À pas confondre c'était... avec la chanson de Boris Vian. Il appelle ici le Rock Monsieur, mais qui a un jeu de mots sur Croque Monsieur, ouais, qui paraît, ouais, beaucoup à
Rock. Peut-être un peu inspiré de. Non, si vous voulez, les pieux.
Mais... Oui, donc c'est 72 est donc hyper moderne parce que c'est un nouveau son alors à l'époque. Si vous,
c'est un travail sur bande, dernier, là, comme l'expliquait Christophe en micro.
Un nouveau son, c'est difficile de commencer prétentieux, mais disons que c'est un nouvel état, un nouveau pas dans ma vie passionnée de création, de trouver après Aline, les marionnettes, tout ce que j'ai fait avant. Mmh.
Ça fait partie du tournant que vous avez pris.
De ma liberté, quoi.
Ouais. Christophe est avec nous avant de partir à Vannes, où il joue à un concert unique jeudi, dans le cadre du festival Les Émancipés, au théâtre Anne de Bretagne, si vous avez la chance d'y aller, avec notamment Babix, avec Cyril Mokayesh et bien d'autres. Et puis Christophe est en tournée. Par exemple, le 28 juillet, vous serez à Saint-André en Vivarais, au Montiver Music Festival, au parc du château de Montiver. Christophe, avec nous jusqu'à 18h, et à côté de vous, il y a Guillaume Meurice.
Oui, chronique délinquance aujourd'hui, avec la garde à vue du mari de la chanteuse Carla Bruni, un certain Nicolas Sarkozy du cartel de Medellin, des Hauts-de-Seine, pardon, excusez-moi, je confonds, comme il y a pas mal de points communs. Il est accusé, donc on le sait, dans une affaire de financement de sa campagne présidentielle par un copain à lui, dictateur. On connaît l'histoire, hein, il l'avait invité à faire des cabanes chez lui dans son jardin, et puis après son ami a été tué dans un bête accident de voiture. Hein, il a refusé la priorité à droite à un missile, pas le truc à la con qui peut arriver à tout le monde. Et donc Nico, il est en garde à vue, voilà, depuis ce matin, quelque part entre Samina Seri et Joey Star. Et moi, je suis allé voir ses électeurs un peu désemparés, en plein cœur du 16e arrondissement de Paris, et je voulais avoir tout simplement leur avis sur la question.
On s'acharne contre lui, maintenant laissez-le dormir tranquille. Hein.
Mais là, si vous aviez un petit mot à dire à Nicolas Sarkozy, s'il écoute la radio en garde à vue.
Oh,
petit chéri, vous lui direz.
Je lui souhaite bon courage, et puis qu'il trouve un bon avocat, qu'il sorte de là.
Bah, peut-être qu'il a plus l'argent, peut-être qu'on pourrait lancer une quête.
Contre lui. Oh, une quête, faut pas exagérer. Mais des signatures, oui.
Oui, ça reste des gens de droite, hein. Dès qu'il faut sortir le porte-monnaie, ça couine un peu. Alors, je suis allé voir un autre soutien. Quel est son sentiment ?
Ben, mon sentiment, c'est que Sarkozy est victime d'une attaque injustifiée. Voilà.
Mais alors, ce serait lui la victime ?
Ah, oh, je dis pas ça.
Ah non, parce que comme il venait de le dire, je me suis dit, comme j'avais entendu. Bon, il dit pas ça, il dit pas du tout victime, vous avez mal entendu. Mais ce monsieur, comment il trouve ces accusations ?
Totalement injustifié.
Pourquoi vous pensez ça, là ?
Ouais, parce que je pense qu'il est pourchassé par des ennemis divers et variés. Et je pense que c'est un type formidable et je regrette qu'il soit plus actif. Je ne connais pas le dossier.
Hein, ah voilà, oui.
Je ne connais pas le dossier, mais je trouve que...
On avait l'impression que vous le connaissiez, c'est pour ça.
Ah non, non, non.
Allez, vous ne connaissez pas le dossier, mais vous pensez qu'il est innocent.
Voilà.
Oui, voilà, bah parce que ça se fait à l'instinct aussi, oui, hein, ces trucs-là. Moi aussi, quand je vois Sarkozy sur un dossier, je me dis innocent. Enfin, c'est le premier mot qui vient à l'esprit, quoi. Quand on voyait Charles Pasqua ou Al Capone à l'époque, qu'est-ce qu'on se disait ?
Innocent.
Innocent, bah voilà, premier truc qui vient. Parce que les vrais coupables, on les connaît, évidemment, c'est Mediapart.
Mediapart, écoutez, ils cherchent des scoops pour vendre leur salade, quoi.
Mais alors si ça s'avérait exact, ce qu'ils ont révélé ?
J'apprécie Sarkozy et je suis contre le harcèlement dont il est victime.
Balance ton Mediapart, on pourrait dire. Là.
Voilà.
Ouais, on va dire comme ça. C'est vrai qu'Edoui Plenel, c'est pas le dernier quand même à te harceler. Celui-là, s'il se met en couple avec Élise Lucet, on est vraiment mal, j'aurais pas être les gamins. T'as fait tes devoirs ? T'imagines la pression du gosse ? C'est un coup à vous dégoûter de finir DRH chez Lidl ou député de La République En Marche, qui sont en fait les deux nominations pour un même métier. Donc il faut se méfier surtout avec Mediapart.
Oui, surtout avec des fouilles merde.
Ah, bon, Mediapart, vous aimez pas ?
Non.
Mais quand il sort, par exemple, l'affaire Cahuzac ?
Oui. Bah, c'est un peu... Il ne faut pas mettre Cahuzac à ce niveau-là. Bon, on le savait très bien.
J'ai l'impression que quand c'est Nicolas Sarkozy, vous aimez pas, et quand c'est Cahuzac, vous aimez bien.
Bon, évidemment, je suis plus à droite qu'à gauche, ça c'est sûr.
Voilà, quand c'est le camp d'en face, et là on connaît la musique, c'est plus rigolo. Hein, mais quand ça concerne les gens qu'on aime bien, ça coince. Ça, c'est classique hein, dans le jargon, on appelle ça faire une corbière. Voilà, hein, tout simplement, les poujadistes autour de cette table apprécieront. Après, chez ces sarkozistes, il y a le côté qu'on pourrait appeler le côté décomplexé.
Ouais, voici la prise du pognon à Kadhafi, il a bien fait, je vous dis.
Ah ouais ?
Oh, bah, oui.
Qu'est-ce qu'il a fait financer sa campagne avec ?
Oh, ben, bah, voici, il a fait financer, bah, il a fait comme il a voulu, vous savez.
Oui, ça n'a pas l'air de vous...
Oh non, 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 ça ne me chagrine pas, moi.
Ce Kadhafi, c'était quand même un dictateur, c'était pas n'importe
bah
qui.
Oui, bah oui, bah oui, c'est un dictateur. Qu'est-ce que je vous dis ?
Bon, bah, si on ne peut plus faire financer sa campagne présidentielle par un dictateur, on ne peut plus rien faire dans ce pays, bordel ! C'était mieux avant, Taubira démission, j'ai envie de dire, merde ! Et puis, Sarkozy, il ne faut quand même pas oublier, c'est un grand homme dans l'histoire de France.
C'est un bon président, hein. J'ai voté pour lui.
Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait de bien quand il était président ? Qu'est-ce que vous retenez de son action ?
Je sais pas. Il a fait des choses. Mais bon, j'ai pas à émettre de là-dessus.
Hein. Ouais, mais s'il y avait quelque chose de marquant.
Positif. Ben oui, ben je pense qu'il a. Oui. Mais j'ai pas. À l'esprit, je sais pas. Ce qu'il a fait de bien.
C'est vrai que je saurais pas vous aider non plus. Hein ? Enfin, peut-être qu'il a rien fait de bien.
Si, mais.
Il n'y a pas photo.
Non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. À part une de Paris Match, où là, il y avait quand même beaucoup de photos toutes les semaines avec Carla. Et c'est vrai qu'il y a moins de photos sur Mediapart qui viennent fêter ses 10 ans. 10 ans, c'est possiblement d'ailleurs ce que risque Sarkozy à Fleury Mérogis.
Merci Guillaume Meurice. Avec à la technique Julien Michel, à la réalisation Anne-Sophie Ladonne. Et le silence comme magnifique son à certaines réponses. Christophe est avec nous. Christophe qui est en tournée. Vous serez, tiens, à Sifour-les-Plages. Ce sera le 14 avril, c'est bientôt, à l'espace culturel André Malraux. Christophe, parlons un petit peu de la nuit et de son trop-plein de lumière, peut-être, sur la pollution lumineuse. Parce que les éclairages publics perturbent notre sommeil, mais il y a aussi des incidences sur la migration des oiseaux, qui n'arrivent plus à s'orienter parce qu'ils ne voient plus les étoiles, etc. Et sur le littoral, l'éclairage nocturne dans les grandes villes perturbe même la vie aquatique. Voici un chant révolutionnaire contre trop de réverbères. Vous avez reconnu ce grand rocker, Christophe ?
C'était Coco, c'était
Coluche. C'était Coco, c'était Coluche. Ouais. C'est un article paru dans Le Parisien aujourd'hui en France qui nous explique que donc même les oiseaux sont éblouis et perdent leurs repères pendant leur migration. Quand on vit en ville, Christophe, vous qui vivez beaucoup la nuit, est-ce que c'est devenu presque mission impossible d'être dans le noir total ? Est-ce que vous ressentez un peu cette...
Dans le noir total, je pense que c'est mission impossible en ce qui me concerne, oui. Pour les autres, je ne sais pas.
De toute façon, vous éclairez la nuit, vous, forcément. Vous bossez.
Oui, mais j'éclaire pas beaucoup pour être cash. J'adore, je préfère le plus beau réverbère de la nuit, c'est la pleine lune, mais c'est pas tous les soirs. Donc, et puis, je fais aussi, je vis sur un voilier équipé d'un studio l'été pendant. Ouais.
J'allais vous demander, pendant
2 mois.
À Tanger, notamment, où il y a beaucoup de lumière.
Je n'habite pas à Tanger.
Non, mais il n'est pas amarré à Tanger, votre bateau?
Non, il est à Port Grimaud.
Ah,
et donc,
rien
donc je vis les mouillages, effectivement, comment, au large de la côte. Et c'est vrai que j'aime bien voir la lumière de la côte, pour être cash.
Ah oui.
Après, bon, je sais pas toute l'histoire que ça
implique, mais c'est vous à votre niveau. Mais quand vous êtes sur votre bateau, là, vous voyez les étoiles, vous voyez la Voie lactée. Il y a moins de pollution lumineuse.
Oui, c'est pas couvert, je vois les étoiles.
Oui, évidemment.
Oui, c'est un plaisir de voir les étoiles, bien sûr. Bien sûr que c'est la plus belle. Ça scintille, c'est beau, c'est. Voilà, mais.
Mais vous aimez les lumières de la ville, c'est ça?
Je crois que l'architecture dans Paris, des réverbères ouais, ça me. J'aime, ouais. J'aime bien. Je me balade beaucoup la nuit, tout le temps avant de rentrer et travailler.
Et justement, est-ce que vous entendez les oiseaux qui sont perdus et qui chantent?
La nuit, bien oui. C'est surtout, ils arrivent surtout à partir de 5 heures du matin. Et bon, bien sûr, j'ai. Comme tout le monde, je les ai enregistrés.
Ah oui, c'est vrai.
Bah ouais.
Parce qu'à 5 heures du matin, tout le monde enregistrait. Bien sûr, les corneilles, c'est ça, hein, c'est un peu ça.
Ouais,
hein.
ouais.
Et surtout, je suis.
Vous les enregistrez, vous baladez en rue en les enregistrant ou vous tendez le bras?
Non, pas du tout. J'habite un endroit entre le boulevard et la rue Campagne Première, donc il suffit de mettre un micro. Là, j'ai une très très belle réverbération du cri, quoi. Du cri. Ce que j'ai employé sur. C'est pas non plus un truc extraordinaire, mais sur l'album Aimer ce que nous sommes, parce que ça fait partie d'une chanson, voilà. C'est vrai que j'aime la lumière, mais c'est vrai que j'aime la bougie aussi, mais est-ce que la bougie c'est bon aussi pour l'environnement? Paraît que non.
Ah, alors ça, je.
On peut plus rien faire pour ça, je veux dire.
C'est
la lampe de poche aujourd'hui, ça, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu de la lumière sur les côtes.
Alors, il y a déjà eu pas mal d'articles sur le fait qu'on puisse faire des économies parce qu'on éclaire trop les monuments, etc. Là, l'article porte typiquement sur le monde aquatique et les planctons, etc., qui n'arrivent pas à proliférer ou à se reproduire.
Donc, reste chez eux.
C'est dans Le Parisien aujourd'hui en France. Mais voilà, c'était un sujet un peu by night, nuit pour Christophe.
On a découvert cette problématique, je vais vous le dire.
À côté de vous, Christophe, je vous présente Constance. Rebonjour, Constance.
Rebonjour.
Bon, voilà, donc je vois que visiblement tout le monde a oublié de se souhaiter la fête d'aujourd'hui. Tant pis, je ne laisserai pas l'ambiance être gâchée par des gens qui n'ont pas le sens de la fête. Joyeuse journée mondiale de la francophonie à tous. Cotillon imaginaire, voilà. J'ai pas eu le temps d'aller en acheter. Donc Noël, la fête des mères, le carnaval de Rio, c'est de la merde à côté de la journée mondiale de la francophonie. Parce que la francophonie, qu'est-ce que c'est ? C'est 220 millions de personnes dans le monde qui partagent la même langue. Alors d'accord, d'un point de vue hygiénique, c'est dégueulasse. Surtout dans le tas, il y en a toujours 2-3 qui doivent avoir des aftes ou des gingivites. Mais d'un point de vue de communication, c'est extraordinaire. Parce que grâce à la langue, nous avons accès à l'autre, me disait l'autre soir Clara Morgan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, quand j'articule des sons dans ma bouche et que je les mets les uns derrière les autres et que je les expulse avec de l'air, eh bien grâce à ça, vous pouvez me comprendre. C'est un truc de malade, non ? Ben on réalise ou pas ? Le français, c'est la langue de Baudelaire. Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Je m'enivre des odeurs combinées de goudron, de musc et de l'huile de coco. Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs. Mais le français, c'est aussi la langue de Monique, ma voisine. T'as tiré ta gueule, enculé, si je t'attrape encore en train de pisser dans les bégonias. Donc le français, c'est large. Alors, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir ? Bien déjà que, historiquement, on s'est rendu compte assez rapidement que la bouche, comme orifice pour parler, c'était beaucoup plus pratique et poli que le cul. Voilà. Quoique certaines personnes disent tellement de la merde que je me demande si elles ne se trompent pas d'orifice pour parler. Bref. Le langage est un immense pouvoir qui devient ce que nous choisissons d'en faire. Non, mais vous vous rendez compte de la pression qu'il y a sur nos lèvres ? Ce que nous disons nous définit, nous relie ou nous écarte des autres consciemment ou inconsciemment. Alors oui, c'est un petit peu compliqué comme phrase, mais c'est en même temps hyper intéressant. Puis on est quand même sur France Inter, merde. Alors attention, je tire la sonnette d'alarme. Cri-cring, cri-cring. Bon là, j'ai trouvé que ça comme bruit.
Vous pouvez demander des sons.
Je vais demander des sons, je me rends compte. Moi, je vais demander des sons, pardon. Voilà. Je tire la sonnette d'alarme. Parce que le langage est une arme. Ça fout les jetons d'imaginer qu'on est tous les uns à côté des autres, la bouche chargée de mots qui pourraient potentiellement partir à tout moment et abîmer l'autre de manière irréversible. Peut-être que par prudence, il faudrait mieux qu'on mette en place des lois sur le langage pour nous protéger. Une loi écolo interdisant formellement de laisser couler des mots toxiques dans l'environnement des autres. Une loi fasciste qui condamne à mort les gens qui pratiquent le jeu de mots. C'est un poisson qui a froid et qui dit à un autre poisson « On se les caille ici !» À mort ! À mort ! Ouais. En fait, c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut plus de contrôle, plus de surveillance. Il faudrait mettre des radars en place pour faire payer des amendes aux gens qui parlent trop vite. Il faudrait une milice qui tabasse les personnes qui disent « Les gens y croivent !» Je demande l'interdiction des mots moches comme « glaire »,« rognon »,« enclume » et « croûte ». Pardon, je me rends compte qu'encore une fois sur une chronique, je me suis emballée un petit peu comme une crotte de chien dans un sachet. En fait, ce que je voulais vous dire, c'était que la francophonie, c'était joli. Parce que quand on prononce des jolis mots comme vestibule, mobilette, canaille, ça fait des petits guilis dans la bouche. Et je propose de terminer cette chronique en disant chacun de nos tours un mot qu'on adore prononcer. Moi, par exemple, mon mot préféré, c'est cuticule.
C'est joli.
Et vous ?
Taxidermiste, j'aime bien moi.
Ah, c'est mignon.
Ah, j'aurais dit top, moi.
Taxidermiste.
Aimé.
Oh, Christ, c'est joli. Oh. Bon, bah, j'ose pas dire tractopelle alors. Parce que
on va rester sur le aimé de Christophe.
Merci, Constance.
Avec plaisir.
Et bonne fête de la francophonie alors.
Joyeuse fête de la francophonie à tous.
Christophe est avec nous jusqu'à 18h et on va aborder ce dernier sujet aussi avec Djoubaka, Alex et Guillaume. Une biographie de Picasso le dépeint en pervers, cynique et cruel avec ses proches. Depuis l'affaire Weinstein, l'histoire de l'art et le showbiz sont revus à la lumière des qualités humaines des artistes. Et c'est parfois pas très beau à voir, par exemple, le vrai Picasso à la télévision. C'eût été quelque chose.
Mais
tu t'es déjà regardé, tu te crois malin parce que tu parles allemand, j'ai ri moi, ta blague, j'ai ri aussi quand
Aristote,
il a rajouté. Et toi, tu te permets de me juger, hein?
Si on parlait de
votre livre. Tu viens bramer allemand dans mes oreilles.
Non, 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 s'il vous plaît.
Comment, suis-toi, espèce de...
Non, non, je vous en prie, je vous en prie, monsieur Manhattan.
Moi, j'ai rigolé à sa blague, j'ai rigolé.
S'il vous plaît, on va être obligé de couper l'émission. Non, je vous en prie, je vous en prie.
Tu te coupes l'émission, je me tranche la gueule.
Non, non, je vous en prie, arrêtez, je vous en prie, coupez. Coupez.
C'est Benoît Poulvorde dans Monsieur Manhattan, micro-programme qu'il y avait sur Canal+. Et c'est un dossier culture du Figaro, voilà, qui nous explique que une nouvelle biographie de Picasso est sortie. Et la biographe, qui est fan absolue de l'œuvre de Picasso, explique qu'elle en sort éprouvée de ses 15 années d'études sur le personnage parce que Pablo était un fieffé salaud. Est-ce que vous êtes déçu, Christophe, d'apprendre que Picasso est un salaud ?
Pas vraiment, non. Parce que, d'abord, j'ai rien lu, donc je sais pas. Disons que j'aime l'artiste. Mm-hmm. J'aime l'artiste. Et après, c'est vrai que quand on voit comment des interviews, tout ça, que qu'on entend l'homme parler, que ce soit lui ou d'autres deux artistes. C'est sûr que chacun se fait son idée, mais on connaît jamais vraiment comment personne au fond.
Vous trouvez qu'il faut connaître l'homme derrière l'œuvre, c'est-à-dire que quand vous allez voir une exposition de peinture, ça vous suffit de... Ouais,
moi personnellement non. J'aurais pu rencontrer des gens. Moi, j'ai rencontré Lou Reed, même si je ne voulais pas, c'est fait comme ça, par hasard. Et
vous aviez peur d'être déçu.
Je ne veux pas dire que je regrette, ouais. mais voilà, j'aurais pu rencontrer David Bowie, j'ai pas voulu.
Parce que c'est votre idole avec, ça, avec Presley et Lou Reed.
Voilà, donc, si on m'avait dit Presley, peut-être que je serais allé. Ah. Mais donc, bon, passons. Donc, non, ce qui me plaît, parce que... Il y a des gens que j'aime pas humainement, j'aime pas beaucoup Yves Montand. Mm-hmm. Mais si je le vois au cinéma, j'oublie ça et je rentre dans le film et je me dis le mec a du talent. Donc vous voyez, c'est un...
Moi, c'est pareil avec Alex.
Vous avez bien connu Claude François, en ce moment ressortent des faces d'ombre. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça vous surprend?
Je l'ai bien connu, c'est vrai que j'ai passé que des moments... super avec lui. C'est vrai que Claude, il faisait un peu ses choix, quoi. Moi aussi, d'ailleurs, on va vers des gens qu'on aime. C'est comme ça. Et Claude, on avait une passion. C'était aussi la salle de cinéma, les collections de 35 mm. On faisait des échanges de ça, de musique aussi, parce que Claude était un mec assez pointu dans la musique, dans la percussion surtout. Et après, bon, c'est vrai que j'ai lu des autobios de gens qui parlaient de lui d'une certaine façon. Donc moi, j'aurais jamais parlé comme ça de lui parce que mes moments avec lui ont été que du plaisir, du bonheur.
Que du plaisir. Et voilà, donc cet article du Figaro qui explique aussi que souvent, là, on a des hagiographies des artistes. Alors après, dès que ça se passe moins bien, c'est...
Déboulonne.
On déboulonne. Christophe, on a une proposition à vous faire. Je vous soumets.
On propose un sketch à l'invité.
C'est la fin ?
Oui, je sais, ça va très vite, trop vite. On vous a donné le rôle de Pierre Soulages, ce peintre français, parce que Emmanuel et Brigitte Macron sont allés lui rendre visite en Falcon. Ils ont eu l'occasion d'aller faire un petit déjeuner. Le couple Macron, c'est Charline et Guillaume. Vous êtes Pierre Soulages. Ça s'est passé vendredi dernier. On voit comment ça s'est déroulé.
Mes respects, monsieur Soulages.
Alors, vous pouvez m'appeler Pierrot, allez.
Je préfère pas, je risque de vous confondre avec Pierre Gattaz.
Évidemment, vous avez fait bonne route.
Très agréable.
Vous êtes venu par la 75 ?
Non, par le 7X.
C'est une autoroute, ça ?
Ah non, c'est un Falcon.
Il n'y avait plus de place dans l'autocar, alors.
Non, on compense la diminution des APL.
Bon, si on parlait plutôt peinture...
Ah oui, Pierre, faites-nous visiter votre atelier.
C'est de l'art abstrait.
Oh, j'adore !
L'art abstrait, ça me fait beaucoup penser à mes discours.
La pensée complexe, évidemment.
Alors, Pierre, elles sont où, vos œuvres ?
Bah là, vous êtes en plein devant.
Manu, je crois qu'il a oublié d'enlever le cache noir.
Non, c'est le tableau, en fait, c'est ça, oui.
Vous aimez ? Ça vous plaît ?
Ah bah c'est noir, quoi.
C'est noir.
C'est pas du tout noir. C'est de l'autre noir.
Ah bah disons que ça ressemble beaucoup au noir. Oui.
C'est noir.
Ouais. Ici, une autre œuvre, là.
Ah, peut-être c'est noir aussi, hein. Oui.
Et une autre, là.
Ah bah en tout cas, il y a une continuité dans votre démarche.
C'est vrai qu'on sent bien une vraie volonté de vider le tube de noir.
C'est quand vous videz les caisses de l'État.
Oh, mais quelle insolence.
C'est de l'humour noir.
Vous ne vous attendez pas à autre chose de ma part.
Bon, viens Brigitte, on s'en va à 7, on peut aller se recueillir sur la tombe de Brassens. Hein.
Bonne idée, il a écrit des chansons pour vous, les amours et les bons publics par exemple.
Oh, je vois que monsieur lit Paris Match.
Et je pense aussi aux copains d'abord.
Ah, ça je comprends pas par contre.
Le président des riches, tout ça.
Oula, alors ça suffit. Allez, terminé. Je reste pas une seconde de plus. Faites affréter le Falcon. Allez, terminé.
Comme disait Georges, quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour les cons.
Merci Christophe en Pierre Soulages.
Moi j'ai vu Christophe en acteur et il est brillant. J'espère que vous allez plus jouer. C'était dans un court-métrage avec Bernard Ménez notamment et vous étiez très bon.
Oui, mais je ne me suis pas regardé, je vous dis tout de suite.
Moi je vous ai vu, ça suffit.
Christophe, on peut vous entendre donc à Vannes jeudi soir à 21h dans le cadre Festival Les Émancipés au Théâtre Anne de Bretagne avec plein d'autres artistes et puis vous serez en tournée à Châteaudun, Château-Renard, Sifour-les-Plages, La Grand-Motte pendant l'été jusqu'au mois de juillet pour l'instant. Christophe, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. C'est passé très très vite.
Bien, merci beaucoup à vous.
Et on laisse le mot de la fin à une pensée émue à un homme actuellement qui a des petits soucis.
Qui me rendra mon honneur ?
Pour vivre cette expérience collective.
En partenariat avec La Massif.
Massif ?
Essentiel pour moi.
Et si vous cédiez enfin à la tentation ? Chez Roche-Beaubois, pendant les 10 jours tentation, craquez pour le design d'un meuble. Abandonnez-vous au confort d'un canapé et profitez de prix très séduisants sur la nouvelle collection.
Les prix tentation chez Roche-Beaubois, c'est une seule fois par an et jusqu'au 26 mars seulement. Magasin participant sur rochebeaubois.com.
Roche-Beaubois, French art de vivre.
Un très grand salon.
Une deuxième chambre.
Un très grand salon.
Bon, dans tous les cas, ici, c'est la salle de bain.
Chez Cogedim, vous pouvez personnaliser chaque mètre carré de votre futur investissement dans le neuf.
Enfin, la salle d'eau. Tout le monde préfère les douches à l'italienne maintenant.
Mais non, salle de bain avec une grande baignoire.
Une douche.
Le plus dur, c'est encore de se mettre d'accord. En devenant propriétaire d'un appartement neuf Cogedim, vous pouvez...